Une semaine dans leur vie, ce sont de longs portraits pour vous raconter autrement l'actualité et la société. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Bruno Duvic.
Avec vous dans ce numéro, portrait d'un homme dont le parcours relève encore de l'exception. Il s'appelle Youssef Badr, il a 39 ans, fils d'immigrés marocains, 5 enfants dans la famille, il est l'avant-dernier. Il a grandi en banlieue parisienne, puis les études à Assas et à l'École nationale de la magistrature. On y vient. 29 ans, Youssef Badr est procureur à Meaux, puis ensuite Bobigny et Paris. À 36 ans, et on détaillera le reste de son parcours ensuite, il était porte-parole de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
C'est un bonhomme tout fin, pas très grand, l'allure discrète, mais bavard quand même. Il a le regard sombre d'un procureur. On le croit triste parfois, mais ses sourires sont généreux. Youssef Badr, il marche à la confiance, il se livre quand elle est acquise, même si on sent que chaque mot est réfléchi, que chaque phrase est une démonstration. Comme s'il avait dû apprendre très jeune qu'il aurait besoin toute sa vie de justifier de sa pertinence, comme s'il était conscient encore aujourd'hui d'être une exception dans la magistrature. Quand nous nous sommes retrouvés dans les bureaux de la presse judiciaire au vieux palais de justice de Paris, j'ai tout de suite demandé à Youssef Badr comment il qualifierait son parcours sur une échelle allant du banal au miraculeux. Et il m'a répondu « miraculeux ». J'ai vérifié en lisant la dernière transparence, vous savez, cette ordonnance ministérielle qui règle les changements d'affectation des magistrats, une longue liste de plusieurs centaines de noms, pas un seul n'a la même consonance que Youssef Badr.
Au départ, rien de prédestiné à cette trajectoire. Mes parents savent ni lire ni écrire. Mon père est venu du Maroc avec un sac à dos. Dans les années 70, ma mère était toujours au Maroc avec mes deux grands frères et ma grande sœur. Ils sont venus parce que mon père finalement s'est installé en France comme ouvrier dans le bâtiment et qu'il leur a dit que peut-être il y avait quelque chose à faire ici. Et ensuite, mon petit frère et moi, on est né en France. L'enfance était assez pauvre. Forcément, qui dit pauvreté dit forcément conflits familiaux, en tout cas tensions. On a dû travailler tous très tôt. Bizarrement, ça a eu l'effet inverse de ce que ça aurait dû avoir. C'est-à-dire, au lieu de nous faire décrocher scolairement, en fait, ça nous a convaincus de se dire, en tout cas moi, travaille à l'école, en fait. C'est idiot, mais j'ai un souvenir des journées, des matinées d'hiver sur le marché, notamment d'Argenteuil, que je faisais le dimanche, où j'avais les mains gelées, en fait, les doigts gelés. Et je rentrais le dimanche et je disais à ma mère, j'irai au bout du bout à l'école, mais parce que je veux pas travailler dehors en fait. Je suis pas fait pour ça. Donc du coup, je me suis accroché, le lycée ou le collège, chez le collège quoi. Le lycée, ça a été compliqué parce que j'étais dans un lycée où il y avait des remarques qui étaient déplacées. C'était toujours les mêmes qui prenaient et voilà, j'avais une tendance à peut-être ouvrir un peu trop ma bouche, si vous pardonnez l'expression, je l'ai payé très cher, très très cher, puisque j'ai été exclu, et que ça a fermé mes rêves d'aller en école de commerce. Et ensuite j'ai atterri à l'IUT de Villedaneuse qui voulait bien de moi. Donc c'était pour débuter des études de droit. Et ensuite j'ai fait au fur et à mesure des 4 années à Villedaneuse de super belles rencontres, déjà mes camarades de promo. Et puis ensuite un professeur qui s'appelle Danny Cohen et qui un jour nous a entendu blaguer après un cours et est venu nous voir pour nous demander ce qu'on se racontait un groupe de 3-4 amis, c'est-à-dire quand on sera magistrat et avocat, toi tu feras ça, moi je ferai ça. Et il l'a pris au pied de la lettre. Il est revenu le lendemain avec une liste de livres et une liste de films. Et il nous a demandé lesquels on avait lus, lesquels on avait vus. On n'en avait vu aucun. Et ensuite, il a commencé à formater notre cerveau, vraiment, et en nous apprenant à sortir de notre banlieue, à sortir de notre fac. Moi, il m'a emmené à des colloques à la Cour de Casse. Il m'a présenté des magistrats qui, pour moi, sont toujours aujourd'hui des dieux vivants, comme Guy Canivet. J'allais à des colloques, il me faisait lire des livres, il m'a présenté des profs, et il m'a présenté un magistrat, notamment, qui est André Potocki, qui a été d'ailleurs juge français à la CEDH, et qui, lui, m'a pris sous son aile. Et m'a encouragé, m'a aidé, m'a ouvert vraiment sur l'extérieur. Et ensuite, au bout de 4 années, quand on a été un peu mieux armés, un jour il nous a dit « Vous êtes prêts, partez de Villedaneuse. Voilà, maintenant vous allez nager dans la cour des grands. » Et on est parti à la Sorbonne et à Assas.
et Jean-Philippe, traverser le périph est la première grosse revanche de Youssef Badr sur la vie.
Oui, parce qu'à Villetaneuse, Youssef Badr a aussi eu un prof qui lui a dit un jour, les yeux dans les yeux, qu'il n'y arriverait jamais, qu'il n'y aurait jamais de place pour lui dans la magistrature, qu'il lui manquait trop de choses pour y parvenir. Ça, c'est le genre de discours qui démoralise un étudiant.
Mais cette réflexion, il l'a prise comme un nouveau défi.
Oui, un défi encore plus dur que tous ceux qu'il a relevés jusque-là, presque insurmontable.
J'étais clairement une exception, je l'ai clairement ressenti quand je suis arrivé dans mon DEA. Et puis oui, je suis une exception, même, j'allais dire, vestimentairement parlant. Moi, j'arrive à la fac, vraiment, je pars de Villetaneuse, on est en 2004, j'arrive à la Sorbonne, enfin, j'ai des Air Max, j'ai des écouteurs, j'écoute Lunatic, ce qui n'a rien à voir avec mes camarades de classe. Enfin, je veux dire, j'avais une copine qui était très sympa, qui me proposait d'aller au théâtre. J'avais jamais été au théâtre. Au théâtre, pour voir quoi? C'était pas du tout le même milieu. La majorité habitait quasiment proche de la fac, et moi je prenais le RER A tous les soirs pour rentrer à l'autre bout du Val d'Oise, quoi.
On a le son pour que les b-boys puissent danser, pour que les intellects puissent penser, pour que les gars calment dans leur défense. L-U-N-A-T-I-C. On a le son pour que les b-boys puissent danser, pour que les intellects puissent penser, pour que les gars calment dans leur défense. L-U-N-A-T-I-C.
Je suis arrivé avec deux copains, enfin un copain et une copine de Villetaneuse. On mangeait pas le midi, ou très peu. On bossait énormément, on passait beaucoup de temps à Cujas, à la bibliothèque. Ce qui nous a aidé, c'est qu'on était trois et qu'on s'est beaucoup soutenus. Et ce qui nous a aidé surtout, c'est que notre prof, en fait, lui, il avait cru en nous à Villetaneuse pendant des années. Il nous avait encouragés. Voilà, il continuait à nous proposer des sorties, des colloques, il nous envoyait des références à lire, on l'avait régulièrement, on le voyait. J'avais qu'une trouille, moi, c'est de le décevoir. Si moi je le décevais, ça veut dire que, en fait, quelque part, les étudiants du 93 étaient finalement condamnés à échouer ou à faire des études médiocres. Et puis surtout, pour moi, je me disais, quelle image et quel exemple tu vas donner pour ceux qui suivront après? En fait, quand je dis que c'était hyper dur, c'était dur physiquement. On bossait beaucoup plus que les autres, mais parce qu'on avait beaucoup plus de choses à rattraper. Et voilà, et puis on travaillait la méthodologie et tout ça. Des fois, on en riait, on rigolait, mais quand je repense parfois à nos journées, c'était juste lunaire. Une vie d'étudiant, normalement, vous allez à la fac, c'est une vie presque un peu désinvolte, quoi. Profitez, vous avez des facilités ou pas, mais voilà, vous révisez dans la dernière ligne droite. Nous, on bossait tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et j'ai notamment des souvenirs d'hiver où après, on allait à des colloques à la Cour de cassation, à la Grande Chambre, pour aller écouter Guy Canivet, qui à l'époque était premier président de la Cour de cassation, des professeurs comme Christophe Jamin et tout ça. Nous, on y allait parce qu'on avait besoin, en fait, de rattraper tout ça et de se former. Et c'était à ça que ressemblaient nos journées. Et on rentrait chez nous à pas d'heure. Et on retournait le lendemain. Mais parce que nous, on se disait, on a l'obligation de réussir. On n'écrivait pas très bien. On s'exprimait, oui, on avait la tchatch, mais c'est pas avec la tchatch qu'on s'en sort, en fait. Il faut après qu'on arrive à l'ordonner, à la construire, à l'argumenter et tout ça. Donc ça nous a mis du temps. Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai vu ensuite pour les concours. Il y a ceux qui ont la méthodologie et ceux qui l'ont pas. Ceux qui l'ont pas, il faut qu'ils le rattrapent. C'est un 100 mètres, sauf qu'il y en a un qui est 30 mètres derrière. Et en fait, vous devez arriver sur la ligne d'arrivée avec en même temps que les autres, voire un peu plus que les autres, sauf qu'en fait, vous partez soit avec des boulets aux pieds, soit 30 mètres derrière.
Mais le coureur Youssef Badr n'a encore rien vu. En juin 2006, il va sentir le poids de ce boulet au pied, le boulet de la différence.
Il va tenter de conquérir la forteresse de l'École nationale de la magistrature, seule entrée possible pour devenir magistrat. Et dans le concours de l'ENM, le gros morceau, c'est l'entretien individuel avec le jury COEF 6, le plus gros COEF de tout le concours, le grand O, comme on l'appelle. Et dites-moi à ce sujet, Bruno, connaissez-vous la recette de la crêpe Suzette?
Alors, je vois pas le rapport. Il me semble qu'il y a de l'orange, mais je suis pas sûr.
Presque. Mais comme Youssef Badr, vous auriez certainement eu beaucoup de mal à entrer à l'ENM.
Les épreuves écrites, les deux fois, je les ai eues. Je l'ai passé deux fois le concours. Deux fois, j'ai été aux oraux. Et les épreuves écrites, elles sont toujours passées. C'est une formalité. J'avais plutôt des bonnes notes. Voilà, j'avais vraiment beaucoup travaillé. Les oraux, ça a été plus compliqué, notamment le grand oral. J'ai connu les deux expériences. Le grand oral qui se passe très mal, le premier, et puis le grand oral qui se passe mieux. Le premier, ça a été un naufrage total. C'était des questions de culture générale et des questions de connaissances liées à ce qu'est la France. Et j'avais pas les bonnes références, j'avais pas les bons codes. J'ai trouvé ça ultra violent. Quand je répondais pas, j'avais droit à des réflexions. Il connaît pas ça, il sait pas ça.
Et c'était quoi ça ?
Bah, par exemple, la recette d'un plat français, une œuvre d'art, la dernière expo que j'avais vue. Bah, en fait, j'avais pas vu. En fait, j'avais jamais mis les pieds dans une expo ou un responsable politique français que je connaissais pas ou que je connaissais peu. Moi, j'avais pas du tout cette connaissance-là. Moi, j'avais une culture qui était une culture différente. Moi qui regardais mes grands frères écouter du rap, qui en ai écouté toute ma vie et qui continue à en écouter, c'est sûr que moi je partais de très loin. Parce que quand on me demandait est-ce que vous pouvez me citer l'époque des peintres-pompiers, je vous avouerais que moi je regardais les membres du Grand Tour avec des yeux ronds en me disant mais de quoi ils me parlent en fait. Moi je suis sorti de là dévasté, en plus c'était public, donc on prenait une humiliation en public, j'avais fait venir ma grande sœur parce que j'étais sûr de réussir et je me suis planté, j'ai eu 6 sur 20, ouais je suis sorti de là vraiment dévasté, je me suis dit, je l'ai pas eu parce que je suis arabe, c'était un réflexe binaire et débile, mais c'est la première chose que je me suis dit, je suis pas comme eux, j'ai pas les bons réflexes, j'ai pas le bon bagage, j'ai pas les bonnes références, je l'ai pas eu parce que voilà, parce que je m'appelle Youssef. Et mes grands frères m'ont dit non, en fait tu l'as pas eu parce que tu t'es effondré. Et parce que je pense que si mentalement tu avais été plus solide, tu aurais pu rebondir ou avoir des réponses plus pertinentes, même si tu connaissais pas la réponse. Et voilà. Et ensuite, un magistrat qui m'accompagnait, André Potocki, m'a dit, un jour, il m'a pris entre quatre yeux quand je me suis planté la première fois. Et il a été très dur, mais c'est ce qu'il fallait au bon moment. Et il m'a dit, mes parents sont polonais et je suis magistrat. Donc tes parents sont marocains. Et si tu le veux, tu l'auras, en fait. Donc il faut arrêter de ramener ça à tes origines. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas faux, en fait. Et on est reparti au combat. Et la deuxième fois, ça s'est mieux passé. La deuxième année, déjà, j'ai continué à bosser, à potasser, à essayer de rattraper ce que je pouvais rattraper. Et ensuite, on a plus travaillé le savoir-être. C'est-à-dire, vas-y, en ayant plus de répondants. Et voilà, tu sais pas de problème, mais... Le grand oral de l'ENM, c'est aussi quel étudiant on va recruter comme étant un magistrat. Est-ce qu'il est capable de s'effondrer à la moindre difficulté? Est-ce qu'il est capable de répondre? Le sujet, c'était la désobéissance civile. Je n'ai pas fait un grand exposé, mais un des membres du jury m'a demandé si j'avais été magistrat sous l'Ancien Régime, sous Vichy, pardon. Est-ce que j'aurais prêté allégeance au maréchal Pétain? Et là, spontanément, je me suis dit, il faut que tu répondes rapidement. Je dis, alors si oui, bon, bah, je peux dire au revoir à mon grand oral. Et je dis, si je dis non, il faut que j'explique pourquoi, parce que c'est un peu trop facile. Et je sais pas comment ça m'est venu, mais je lui ai dit, bah non, j'aurais pas prêté serment ou allégeance au maréchal Pétain. Comme ça, des années plus tard, j'aurais eu un amphithéâtre à mon nom. Et ça les a fait rire. Et ensuite, on a eu un véritable échange sur qui j'étais, d'où je venais, quelles étaient mes motivations pour devenir magistrat. Et on pose des questions sur Antigone, il s'avère que mon prof de fac, avec la noce, m'avait demandé de le lire. Ensuite, j'ai eu des questions sur Albert Camus, coup de chance. Bon, c'était le nom de mon école primaire et j'ai découvert par la suite que c'était un grand écrivain. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je crois que c'est aussi ça, le concours de la fonction publique, c'est aussi une petite part de chance parfois. Et je crois qu'ils ont eu envie de se dire, bah, ce type-là, je pense que c'est un bon magistrat, c'est un bon collègue. Et j'ai eu une note excellente qui m'a permis d'être pris dans les 130 admis. Et voilà, et sur là, pour moi, ça a été vraiment la consécration de toute une vie pour moi. C'était de me dire, les parents peuvent arriver en France avec rien. Voilà, avoir des métiers de femme de ménage, d'ouvrier dans le bâtiment, et avoir des enfants qui intègrent la haute fonction publique. Et voilà, la seule chose que je me suis dit et que je me suis promis ce jour-là en ayant vu mon nom sur la liste, c'est de me dire, oublie pas l'aide que tu as reçue et transmets-la dès que tu peux la transmettre.
Et pendant sa formation, Youssef Badr connaîtra encore le poids de la différence. Quand au cours d'un stage en juridiction, un magistrat lui balance qu'il en fait trop, qu'il a toujours besoin de briller, qu'il a toujours besoin de sortir du cadre.
Et forcément, Youssef Badr le prend mal. Un autre, on aurait dit qu'il s'investit beaucoup, mais à lui, on dit qu'il en fait trop. Et puis cet autre magistrat qui lui lâche cette phrase énigmatique, c'est peut-être comme ça qu'on fait chez toi, mais ici, c'est pas ça. Résigné, Youssef Badr laisse couler. il sait déjà quel magistrat il voudra être en sortant de l'école.
Il choisit le parquet, il obtient un premier poste à Meaux, et puis, à 33 ans...
Retour sur les terres de son enfance, Bobigny.
Ce qui a vraiment été une découverte pour moi, c'est l'arrivée dans le 93. En fait, les prévenus, quand vous êtes issu de l'immigration, il y a une espèce de regard de complicité qui se recherche, en fait. Des prévenus qui s'adressent à vous en arabe.
Alors, à ce moment-là, vous êtes procureur.
Procureur, moi, en fait, je suis le procureur. Donc voilà, moi, je suis ni son ami, ni son copain. Je suis pas son ennemi non plus, même si j'ai en charge de le poursuivre et parfois de requérir des peines assez lourdes. Mais parfois, ça a donné naissance à des scènes très dures. Des gens qui vous traitent de traître. Ça devient très très violent et des gens qui... Ah oui, à l'audience, des menaces. Et d'ailleurs inversement aussi, de personnes qui parfois vous prolongent une garde à vue, discutent avec vous en vous disant mais quel âge vous avez ou quel âge tu as, parce que le tutoiement est assez facile. Et certains, vraiment, ils vous disent mais ça me fait plaisir de voir des gens qui me ressemblent à votre poste et même certains parfois... en rigolent en me disant si j'avais fait des études, j'aurais adoré faire ce que vous faites. Moi, ce qui était intéressant de voir, au-delà de l'aspect aussi criminogène, c'était aussi de voir comment se fait-il que ces jeunes hommes-là, qui avaient mon âge, avaient des parcours de vie alors qu'on était partis exactement du même point de départ, avec les mêmes parents, avec les mêmes difficultés, avaient pris des chemins radicalement différents. Ce qui m'avait heurté, c'était deux choses, et sur lesquelles on essayait de travailler, c'était d'une part vraiment la jeunesse de certains. C'est-à-dire que c'était pas anodin de voir des gamins de 12 ans, il vient 12 ans ou 13 ans, vendre du crack. La deuxième, c'était les trains de vie. On a toujours su que ce que me disait un trafiquant dans le 93. Même une peine à deux chiffres, on me disait « je peux la faire, c'est pas un problème ». À partir du moment où j'ai mon pactole qui m'attend à la sortie, c'était de lutter contre la saisie des avoirs criminels. C'était là-dessus qu'on essayait de travailler et qu'on essayait de progresser. Dans le 93, vous voyez des jeunes de 20 ans millionnaires, voire plus, et vous voyez à côté de ça aussi des nourrices qui peuvent avoir 90 ans, sans exagérer, dans des cités parce qu'ils savent que c'est la proie faible, et des gamins de 12 ans qui font le chouf dans des cités alors qu'ils devraient être à l'école. Ce qui est frappant en fait avec ces jeunes, c'est qu'ils ont une intelligence pratique, mais juste qui est hors du commun. Moi souvent, il m'est arrivé lors des prolongations de garde à vue de discuter avec des jeunes et de leur dire « mais si vous mettiez juste... mais un dixième de l'intelligence que vous avez déployée dans le trafic pour l'organiser, pour le structurer dans une start-up ou dans une société, mais vous feriez des miracles. » Sauf que ce qu'on nous dit, c'est voilà, le besoin d'argent, le besoin de s'en sortir, le besoin de payer les factures des parents, le besoin de financer les affaires du petit frère, et qui font que parfois l'attrait de l'argent facile est trop important pour eux.
Ça, vous l'avez connu, ce besoin d'argent pour votre famille, pour vos parents, pour vos frères et sœurs. Vous auriez pu avoir ce parcours, finalement?
On aurait pu l'avoir si on n'avait pas eu des parents solides. Mes parents étaient des immigrés qui n'avaient pas les codes culturels, mais qui étaient très durs. Et voilà, et ma mère nous a toujours dit une phrase qui a résonné dans nos oreilles et qui résonne toujours aujourd'hui. C'était, voilà, le premier qui me ramène la police à la maison, il repart au Maroc. Tout de suite. J'ai pas besoin de lui ici. Elle nous disait, vous êtes à l'école en France, vous avez la possibilité de vous instruire, juste ne me décevez pas en fait. Ma mère était très dure et heureusement qu'elle a été très dure, parce qu'elle a su nous remettre dans le droit chemin quand il y avait des coups de mou, quoi. Et ça, je pense que la présence des parents et le rôle éducatif des parents, je pense qu'il est juste primordial en fait.
La première fois que j'ai croisé Youssef Badr, c'était dans les couloirs du ministère de la Justice en 2017. Il venait d'être nommé porte-parole de la nouvelle garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Youssef Badr ne faisait pas partie de cette petite communauté de magistrats qui aiment communiquer, qui savent combien c'est important de transmettre aux journalistes certaines informations qui, en bout de chaîne, permettent aux citoyens de comprendre l'institution et les décisions qu'elle rend. Je n'ai jamais su comment il avait été repéré pour ce poste. Et Youssef Badr me dit qu'il ne le sait pas non plus, mais Peut-être que c'était parce qu'il s'appelle Youssef, pour une fois.
Alors, pour permettre à d'autres, Youssef, de peut-être devenir magistrat, il parraine des étudiants avec l'association La Grande Famille.
Des jeunes qui, comme lui, n'ont pas étudié le droit dans les facultés prestigieuses et qui rêvent de pousser les portes de l'ENM. D'ailleurs, Youssef Badr est aujourd'hui devenu coordonnateur de formation au sein de cette grande école, celle que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qualifie d'école de l'entre-soi.
En fait, je pense que l'ENM et le concours, il faut le maintenir en l'état. Je pense que l'ENM doit être cette belle école, cette haute école qui est difficile d'accès. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour, dès le collège, dès le lycée, dès la fac, juste ouvrir le champ des possibles à ces étudiants, à ces élèves, en leur disant, attention, vous freinez pas de porte. Si on essaie de vous envoyer vers une voie technologique, ne l'acceptez pas si vous avez les bonnes notes. Même si vos parents ont peu de moyens, il y a d'autres solutions qui peuvent être trouvées. Je pense que ce serait une erreur de faire un concours au rabais pour essayer d'ouvrir un peu plus les portes. Moi, je pense qu'il faut travailler sur comment est-ce qu'on peut accompagner ces étudiants, ces collégiens, ces lycéens, depuis le collège et depuis le lycée, pour leur dire, regardez ce qu'on fait à Sciences Po, regardez ce qui se passe dans des facs, et travaillez, ouvrez-vous l'esprit, essayez d'avoir le bagage culturel le plus poussé possible, et ne vous fermez aucune porte. Moi, je pense que c'est ça, en fait, la vraie réussite, parce que je veux pas qu'on dise à ces étudiants-là, après, si jamais ils décrochent ce concours un peu bis ou au rabais au plus simple, de toute façon, vous êtes des magistrats au rabais. De toute façon, vous êtes des étudiants au rabais, ce qu'on disait aussi aux étudiants de Sciences Po quand on leur a créé un peu des voies d'intégration plus simples pour les étudiants qui venaient de ZEP ou de banlieue. Ça, je pense que ce serait une énorme erreur de faire ça. Par contre, travailler pour aller dans des collèges, dans des lycées et leur dire « vous aussi, c'est possible pour vous », ça, je pense que c'est important. Honnêtement, vous verriez le regard de certains lycéens quand il m'arrive d'aller dans des lycées et je fais exprès de mettre un jean, des baskets, des Air Max et tout ça pour aller les voir. Vous verriez leur regard quand je leur dis que je suis magistrat, que j'ai été procureur de la République, que j'étais à la section criminelle en Seine-Saint-Denis, que j'allais requérir aux assises, que j'ai travaillé avec Nicole Belloubet et tout ça. Ils se disent, mais c'est génial en fait. Moi aussi j'aimerais tellement faire ça. Et en fait, les jeunes, notamment ceux qui prennent d'ailleurs une voie complètement différente, ils n'ont pas un mépris pour les magistrats. Au contraire, c'est juste qu'en fait, on leur montre ce qu'on leur a toujours montré comme étant inaccessible pour eux, en fait. Et personne ne leur a dit un jour, ça aussi, c'est possible pour vous. Et vraiment, quand on va au collège, dans les lycées, le regard, il est tout sauf agressif. Au contraire, c'est un regard de se dire, j'aimerais tellement faire ça, moi aussi. Et moi, je reste convaincu que ça se joue pas au niveau de l'école. Ça se joue pas au niveau du concours. Ça se joue au niveau de l'avant. Qu'est-ce qu'on leur donne comme clé pour eux aussi se dire, ben moi aussi je suis capable de ça. Et il s'agit de se dire, le lycéen, le collégien qui est, je donne cet exemple-là, même si c'est stigmatisant et j'aime pas ça, mais qui est au collège, au Franc-Moisin, à Saint-Denis, ou le collégien qui est dans une province au fin fond de la Bourgogne, qui est fils d'agriculteur, quelle chance il a, par rapport à des étudiants parisiens, d'accéder à la haute fonction publique.
Et la réponse aujourd'hui?
Bah, il y a du chemin encore. Moi, je pense qu'il y a des choses très simples qui fonctionnent, comme le parrainage, comme le fait d'accompagner des étudiants, comme le fait de juste d'être présent quand ils ont besoin, comme juste de leur donner confiance en soi, comme juste de les sortir de leur milieu, comme de leur dire « vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul », d'être présent quand il y a des coups de mou, de les former, de leur apprendre à écrire, de leur dire « mais t'es largement capable puisque moi je l'ai fait ». Ça, ça fonctionne hyper bien. Seul bémol aujourd'hui, c'est que dans une journée, il y a 24 heures et que malheureusement, je parraine une dizaine d'étudiants et que si je pouvais en parrainer 100 000, c'est ce que je ferais. Mais je désespère pas un jour d'ouvrir soit une association, soit une école, soit un lieu et de le faire. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour moi que d'aider à réussir un étudiant qui est parti avec peut-être plus de difficultés ou de handicaps dans la vie.
Alors on l'a compris, au fil de ce portrait Jean-Philippe Degnaud, ce qui motive maintenant Youssef Badr, c'est de renvoyer l'ascenseur avec ce mantra « n'oublie pas l'aide que tu as reçue et transmets-la ».
Et d'ailleurs, pendant cet entretien, deux étudiants sont passés, Solène et Wesley, deux jeunes que Youssef Badr a parrainés quand ils étaient à Villetaneuse. Ils viennent cette année d'intégrer Assas. Aujourd'hui, il n'est plus officiellement leur parrain, mais il reste toujours très présent pour nous encourager, dit Solène. Il fait presque partie de la famille, ajoute Wesley, plein d'admiration.
Portrait d'un magistrat qui s'appelle Youssef, c'était Jean-Philippe Degnaud dans Une semaine dans leur vie. Une semaine dans leur vie est un podcast de la rédaction de France Inter.